Laissez faire votre clignotant. Entrez directement dans les guides de l'auto. Cube Radio.
C'est assez particulier cette semaine parce que toi et moi sommes allés à Los Angeles pour des lancements de véhicules, mais de façon officielle, on n'a ni toi ni moi mis les pieds au salon de l'auto de Los Angeles pour la journée de presse.
Il faut le faire, hein? C'est assez particulier.
Ouais.
Là.
Alors, toi, tu étais là pour la nouvelle Niro. Ouais. Moi, j'étais là pour le lancement de la Porsche 911T, que j'ai pu conduire d'ailleurs sur des routes carrément magnifique, là. Ceux qui ne connaissent pas le Angeles Forest Highway, allez faire ça.
Mais en fait, c'est que des lacets en Californie, il y en a tout plein. On a d'ailleurs roulé sur ces lacets-là en Kia Niro.
Ouais.
C'est peut-être une expérience un peu moins magique. Mais oui, effectivement, nous étions tous les deux en Californie, dans la région de Los Angeles, la semaine du salon de Los Angeles.
Sans y aller.
Mais l'horaire et les circonstances ont fait que
Moi, j'ai quand même mis les pieds au salon officiellement, mais une journée avant que ça ouvre pour la presse, parce que Porsche dévoilait en avant-première, avant l'ouverture du salon, la 911 Dakar, que j'avais très, très hâte de voir. J'étais curieux de connaître. Bon, on savait d'avance que c'était une voiture qui allait hériter de la mécanique de la 911 GTS 4.
Et ça, c'est bien.
Et c'est très bien parce que j'ai toujours dit que c'était la 911 la plus équilibrée. Le plaisir performance est au rendez-vous avec une GTS. À mon avis, plus que si on prend une Turbo S, une GT3, là où c'est des voitures radicales, tu sais.
Mais on faisait confiance aux ingénieurs et aux concepteurs pour ne pas dénaturer la voiture, ce qui aurait été facile de faire.
Ben, dénaturer la voiture.
Non, mais tu veux pas en faire un Jeep Wrangler, là.
C'est assez difficile.
En voulant faire une version entre guillemets tout terrain de la sportive la plus emblématique, on arrive sur un terrain un peu glissant.
Oui,
là.
Mais
Il fallait pas la transformer en Cayenne.
Il n'y a que Porsche qui est capable de faire un truc comme ça. Évidemment, on s'est inspiré du passé. Porsche a gagné le Paris-Dakar en 84, en 86, avec la 911 4x4, la fameuse 911 Rothman. Mm-hmm. Et si vous regardez les images de la nouvelle 911, on a repris la même fonte et les mêmes couleurs.
Le même jeu de couleurs, mais pas l'inscription.
C'est ça, il n'y a plus de cigarettier impliqué. Là. C'est écrit Rough Roads à la place de Rothman. Mais c'est quand même une... Puis en passant, cet ensemble de couleurs-là, c'est une option qu'on peut obtenir sur la 911 Dakar, mais au coût de 32 490. Et je vous donne d'emblée le prix de la voiture. 2500 unités fabriquées dans le monde entier pour deux années modèles, 2023-2024. Alors,
ce sera très, très exclusif.
Est-ce qu'il y en aura une centaine qui viendra au Canada tout au plus? Ça va ressembler à peu près à ça. Et ça part à 247 300 avant option, uniquement avec la boîte PDK, il n'y a pas de boîte manuelle.
Est-ce qu'on est déçu de ça un peu?
Pas vraiment. Parce que je pense que dans le contexte d'une voiture comme ça, la PDK fait un travail extraordinaire. Et ce qu'on m'expliquait, c'est que les coûts d'intégration d'une boîte manuelle pour cette voiture-là, parce que c'est pas juste de placer la manuelle, le fait que la voiture soit plus élevée, que les angles mécaniques soient différents. Il y avait beaucoup de travail à faire. Puis on estime qu'on aurait probablement même pas vendu 10% de boîte manuelle. Mais c'est fascinant parce que la 911, pour les Européens, on vend très peu de boîtes manuelles.
Ah,
l'endroit dans le monde où ils se vendent le plus de boîtes manuelles pour la 911, c'est en Amérique du Nord.
Ah, ben ça, tu m'étonnes, vois-tu.
Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a ramené de façon un peu plus massive la boîte manuelle, parce que la demande est très forte.
Parce que vois-tu, traditionnellement, on dit toujours que la boîte manuelle est plus populaire en Europe qu'ici. Mais là, vois-tu, pour une voiture sportive, je suis très étonné d'apprendre ça.
Mais même qu'au Canada...
J'ai un peu d'espoir.
Même qu'au Canada, la 911, c'est une majorité qui sont vendues avec des boîtes manuelles.
Parce que ce sont des voitures jouets qui servent peut-être plus rarement. C'est un troisième véhicule d'une famille.
En tout cas, il y a toutes sortes de de raisons qui peuvent expliquer ça, mais il y a plus de versions offertes avec des manuels. Là.
Et là, la 911, d'accord, bon, on a vu les photos, il y a des contours d'ailes, du body cladding, là, comme on dit.
Esthétiquement, les pare-chocs, le capot de la GT3 avec les prises d'air, les tours d'ailes, évidemment, les feux arrière, évidemment, toute la production de sous-bassement des marchepieds aussi.
L'a surélevé aussi?
On l'a surélevé de 50 mm.
D'accord.
Mais on peut mais on peut la surélever jusqu'à hauteur de 80 mm par rapport à une GTS 4.
C'est assez haut. Là.
Et il y a des modes de conduite hors route et rallye. Puis quand tu mets ça en mode rallye, c'est pas compliqué. La voiture se dandine, tu fais de la drift à haute vitesse avec ça, mais avec une stabilité incroyable. On a réduit la taille des roues, 19 pouces en avant, 20 pouces en arrière, avec des pneus Pirelli spécialement conçus pour cette auto-là.
Qui ont l'air d'être assez mordants.
Oui, assez agressif. Mais tu peux choisir en option, chez Porsche, des pneus d'été et des pneus d'hiver qui sont aussi spécialement conçus par Pirelli. Alors, il y a ça comme truc qui est intéressant. Bon, on a intégré à la voiture le système de refroidissement au rendement de la 911 Turbo, mais pour le modèle, pour la mécanique de la GTS là, qu'on a là-dedans, parce qu'évidemment, cette voiture-là peut être assez malmenée. Les éléments de suspension ont été modifiés, mais ça demeure une conduite authentiquement sportive. Et, évidemment, il y a toute une panoplie d'accessoires qui peuvent venir avec la voiture, là, mais c'est...
Je l'imagine, moi, déjà, avec un support de toit.
Ben, c'est-à-dire que sur place, il y avait des accessoires support de toit. Il y avait même une 911 avec une tente d'installer sur le toit.
Ah, ça, c'est spécial.
C'est très, très cool. Fait que c'est sûr. Puis là, Porsche, ce qui m'a fait rire, c'est qu'on a eu une entrevue avec les gens de Porsche, puis ils nous expliquaient qu'on fait une édition limitée à 2500 copies. On va voir si la réponse de la clientèle est positive. Et Dieu sait ce qu'on pourrait faire après. Mais tu sais, c'est au moment où je te parle, ils sont tous vendus. Là.
Ben voilà.
T'sais, on le dira pas, là, mais...
Et c'est une entreprise à but lucratif, là, Porsche. Là. Ah, si on voit qu'il y a une demande intéressante, ben on va continuer, là. C'est pas étonnant.
Je regardais l'addition cette année de la 911 Dakar, de la 911T, qui revient aussi après près de 40 ans.
La gamme s'étend.
L'a jamais été aussi grande.
Ouais.
Je n'ai pas comptabilisé le nombre de modèles qu'on ajoute cette année, mais on m'a confirmé que c'était la gamme 911 la plus étoffée jamais offerte sur le marché.
Est-ce qu'on finit pas par se perdre, finalement? Ou chaque version est à ce point pertinente?
Rendu là, ouais. De bâtir...
elles sont bâties sur mesure, de 900, toute manière. Là,
une 911, là, en bas de 150 000 $, t'as pas grand-chose.
Ah, ben non, ben non.
Alors,
ben
tu sais, puis ça va jusqu'à 350 000, là. Ça fait que c'est pas...
Chaque client la commande comme il la veut, là.
Ben
donc,
oui.
Rendu là, pourquoi
fait
pas.
Mais
c'est vrai que ça fait un catalogue très, très, très étendu.
Ouais, exactement. Mais tu sais, pour moi, la 911, la moins intéressante, ça reste une Turbo S décapotable à boîte PDK, là, ça, c'est la 911 qui me parle moins.
Mettons. Mais pourtant, il y a un marché pour ça aussi.
Oui, absolument. Il y a un marché pour ça aussi. Bon, fait que ça, c'était un beau dévoilement.
Mais comme tu disais, un dévoilement presque en marge du salon.
Comme l'ensemble ou la quasi-totalité, en fait, la totalité des voitures qui ont été dévoilées.
C'est un phénomène qu'on voit de plus en plus, donc, dans le cadre d'un salon. Et un exemple qui était assez frappant, c'était au dernier salon de l'auto de Détroit, la Ford Mustang. Elle a été dévoilée à Détroit, mais elle a été dévoilée dans le cadre d'un événement en parallèle au salon organisé par Ford, où tout était contrôlé par le manufacturier. Et c'est un peu ce qu'on observe de plus en plus. Chez Genesis, on a fait la même chose. C'est notre collègue Louis-Philippe Dubé qui était là sur le bord de la plage. On a dévoilé la Genesis Concept X convertible. Ouais. Une magnifique voiture.
Puis on a fait la levée de couverture au moment où le soleil se couchait.
Ben oui. Chaque photo qui a été publiée
était magnifique.
Absolument magnifique.
Ouais, c'est ça.
Franchement, on avait le souci du détail de ce côté-là. Et on sait que Genesis se positionne comme un manufacturier de luxe, évidemment. Mais là, quand on la regarde, On a l'impression d'avoir, je sais pas moi, une Jaguar, d'avoir une Aston Martin sous les yeux.
Mais c'est Genesis une voiture s'en vient littéralement anéantir les trois marques de luxe japonaises. Là.
Oui. Complètement. Complètement.
On commence à se moquer d'Acura. Bon, Infiniti, on
le pense. Non, mais c'est que là où on a été peut-être conservateur chez ces trois marques-là, puis on s'est assis sur le peu qu'on avait acquis, ben Genesis, avec toute la machine coréenne, pousse extrêmement fort. Et là, c'est ça.
Chez Lexus, tu regardes les grandes berlines.
Oui, mais on s'est assis sur nos lauriers longtemps Lexus. Là.
Parce que le cabriolet qu'on vient de dévoiler là, en quelque sorte, est-ce que ça pourrait rivaliser avec un coupé LC, un
cabriolet LC? Mais en même temps, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus moderne avec cette voiture-là. Bon, c'est une étude de style. On verra pas ça en concession la semaine prochaine, bien entendu. C'est le troisième concept X.
C'est un précurseur, c'est ça. Fait que, tu sais, ça annonce quelque chose.
Ça annonce quelque chose. Ouais. Là, on est en train de défricher avec cette voiture-là. On a un empattement qui est très long, évidemment, un long museau à l'avant. C'est une très, très belle voiture. Ça vaut la peine de regarder les photos. Et franchement, c'est rafraîchissant par rapport à tous les VUS qui peuvent être dévoilés ces temps-ci, de voir une voiture deux portes, décapotable, un nouveau modèle, là, pas une nouvelle génération d'une voiture, un nouveau modèle décapotable. Je ne me rappelle pas c'était quand la dernière fois. Franchement, chapeau à Genesis d'oser de ce côté-là. Maintenant, il ne reste plus qu'à la mettre en production.
Ouais, puis on va s'en reparler dans moins d'un an, j'ai l'impression, parce que Genesis, c'est pas une entreprise qui donne l'impression de prendre son temps. Là.
Non.
On fait les choses assez bien et assez rapidement.
Oui.
Alors, ça, c'était une belle surprise. Bon, évidemment, la voiture qui aura fait couler beaucoup d'encre, encore une fois, en périphérie du salon, elle n'a pas été dévoilée au salon officiellement, mais elle est présente au salon, c'est la nouvelle Prius de Toyota, avec une ligne...
Qui n'a pas l'air d'une Prius, là. Ça ressemble à... pas à l'ancienne Prius, aux anciennes Prius. Ça n'a rien à voir. Et ce qui est assez... je dirais drôle, c'est qu'il y a quelques mois au printemps, j'avais été dans un fameux événement avec Toyota, un événement où il y avait un paquet d'affaires, mais finalement, on ne pouvait pas parler de rien. On avait vu deux véhicules. La Crown et la Prius.
OK. Puis donc, elle était identique à ce que
elle était identique à ce qu'on a vu. Elle n'était pas jaune canari on a pu voir sur la photo. Mais moi, j'ai vu il y a 5-6 mois la Prius mais on ne pouvait rien... En fait, on n'avait pas la confirmation que c'était la Prius, mais on savait très bien que c'était elle. Et malheureusement, on nous avait défendu d'en parler. Fait que c'était un peu un gros tease, si tu me permets l'expression. Alors, la grande nouveauté pour cette nouvelle génération de la Prius, c'est l'ajout d'une version... c'est la gamme de la Prius régulière est entièrement équipée des quatre roues motrices, ce qui vient la distinguer de la Corolla hybride, en quelque sorte, parce que on avait peut-être un peu l'impression qu'on allait cannibaliser des ventes de ce côté-là, mais bon...
Mais en même temps, et particulièrement pour notre marché...
Oui.
La Prius régulière ne se vendait pas.
Non, parce qu'on avait, les subventions, évidemment.
Les subventions pour la Prime, et sinon, tu prenais un modèle 4 roues motrices.
Voilà. Alors là, peut-être qu'on essaie de la rendre un petit peu plus... intéressante, tout simplement. On conserve un moteur à 4 cylindres atmosphériques, ça, c'est correct. Mais...
Il grimpe à 2 litres.
Oui, exactement. Ouais. Donc, on avait 1,8 litres auparavant, ça passe à 2 litres maintenant, et on nous a promis une consommation, tiens-toi bien, là, de 4,1 litres aux 100 km. Je ne sais pas jusqu'où on va être capable de descendre.
Pour un véhicule qui a plus de 200 chevaux, là, on est autour de 200 chevaux. Là, la puissance a grimpé énormément.
196 chevaux. Donc, c'est moins un veau qu'auparavant.
C'est beaucoup plus puissant. Ouais. C'est 4 roues motrices. C'est évidemment une voiture un tantinet plus grosse qu'avant. Ouais. Et on va être capable d'avoir une consommation d'essence à 4 litres au 100.
Oui,
l'ancienne Prius, moi, j'avais fait 3,8 litres au 100 pour le modèle attraction. Mais, Mais ça veut dire qu'on sera capable de faire encore un peu mieux que ça.
Assurément.
On est dans une voiture qui est très intéressante. Et le modèle hybride rechargeable,
ben voilà,
j'y arrivais, encore plus le fun. Là.
J'y arrivais. C'est pas la seule nouveauté. On nous a présenté également la Prius Prime. Et de son côté, on nous a promis une autonomie qui allait être bonifiée d'environ 50%. Ce qui
amènerait l'autonomie totale électrique à quoi? 60 km
oui,
autour d'eux?
C'est ce qui est calculé en ce moment. Tout d'un coup, ça devient franchement intéressant. On l'aura dans quelle disponibilité? On sait que les véhicules hybrides rechargeables sont extrêmement prisés. On s'est fait un peu prendre au piège avec le RAV4, si tu veux mon avis.
Ça veut dire qu'avec une autonomie de 60 km, autant du côté du fédéral que du provincial, on va donner les pleins crédits applicables pour un véhicule hybride rechargeable, donc 10 000 $ taxes incluses.
Si on se fie effectivement aux critères en vigueur actuellement, ce serait le cas.
Donc au Canada, il faut s'attendre à ce que la Prius Prime
ait droit aux 5 000.
Oui, au Canada, puis oui. Au Québec, on aurait le 5 000 aussi. Donc, ça veut dire que le prix serait rabaissé.
Mais là, attends, on n'a pas eu les prix.
On n'a pas eu les prix,
Elle sera plus chère que jamais, la Prius. Ça,
oui,
je te le garantis.
Mais avec 10 000 d'écart, avec 10 000 de subventions,
oui.
Le prix pourrait être rabaissé au niveau de celui d'une Prius régulière, là, clairement. Là.
Oui, assurément. Là, je n'ai pas la donnée sous les yeux, mais je crois que la Prime, elle, ne sera pas 4 roues motrices.
Elle n'est pas 4 roues motrices.
Donc, ce sera quand même la grande différence entre les deux. Mais effectivement, avec les crédits, on viendra probablement arriver au même prix, peut-être même moins cher. Mais la grande différence, en tout cas pour le Québec, pour un marché comme le Québec, le jeu des quatre roues motrices est important.
Bon, une chose, on est content. Là, il y a un nouveau système d'infodivertissement. La voiture est beaucoup plus moderne. Elle est au goût du jour. Elle est aussi beaucoup plus belle qu'avant. Je te dirais pas que c'est du tout... Tu sais, je faisais le parallèle la semaine dernière. Je parlais de l'ancienne Mirai versus la nouvelle qui est très belle. On n'est pas à ce niveau-là. Je trouve pas qu'on est passé d'un...
C'est très futuriste comme approche.
C'est très élancé. Ouais. L'inclinaison du pare-brise, c'est quelque chose. Là. Ouais. Je serais curieux de voir l'angle. C'est sûr que c'est une voiture très aérodynamique, mais je ne la trouve pas aussi jolie que la nouvelle Mirai. À ce niveau-là.
Non. On n'a pas une berline avec une présence aussi forte.
Non.
Là.
Mais ça demeure une voiture pas mal plus désirable que l'actuelle Prius que tu achètes de façon purement pécuniaire. Tu sais, tu le fais pour des raisons
rationnelles. Avec aucun amour, là.
C'est ça.
Il n'y a aucune émotion en jeu quand on se procure une Prius en ce moment-là.
Non, c'est ça.
Je te dis pas qu'il y en aura beaucoup avec le modèle de nouvelle génération.
Ça peut pas être pire.
Mais peut-être un peu plus. Autre nouveauté à laquelle on a eu droit jeudi au courant de l'après-midi, c'est la nouvelle génération de la Subaru Impreza qui ramène l'appellation RS.
Bien, qui ramène l'appellation RS dans la mesure où on va offrir dans l'Impreza le moteur 2,5 litres. C'est un peu à contre-courant.
Ouais.
Parce que
c'est rare qu'on augmente la cylindrée d'une voiture.
Tu sais, quelle est l'autre
là?
Voiture compacte qui offre une cylindrée de la sorte? C'est la Mazda 3.
Oui.
Puis on peut pas dire que les ventes de la Mazda 3, ça explose de ce temps-là.
Non, c'est assez modeste.
Mais Subaru, c'est pas compliqué. Là. On s'est inspiré de ce qu'on fait avec la Crosstrek. On s'est dit, on va faire une version RS plus puissante. Il y a des gens qui se plaignent du fait que l'Impreza n'est pas assez puissante. Parfait.
C'est vrai que c'était pas très, très puissant. Là.
Alors, on va avoir le 2 litres.
Et ce sera une version aussi assurément plus chère. Donc, et le moteur 2.5, ça fait longtemps que la recherche et le développement ont été rentabilisés. Si on peut l'offrir, c'est les normes permettre encore de l'offrir. Pourquoi ne pas l'offrir si on constate une demande de ce côté-là?
Bon, alors on avait vu la Crosstrek 2024 qui avait été dévoilée au Japon. Elle sera identique à celle, à celle qui sera vendue en Amérique du Nord. Alors l'Impreza, on se demandait à un certain moment donné si elle continuerait sa carrière. tellement la Crosstrek connaît du succès.
Et tellement on a étiré aussi, j'ai l'impression, l'Impreza sans trop la faire évoluer, sans mettre d'emphase sur cette voiture-là non plus.
Ouais.
Je me demandais si on n'allait pas l'étirer un 2 ans de plus, puis tout arrêter ça là. Mais visiblement, on est très motivé chez Subaru
avec ce modèle-là.
À continuer dans la lignée des compacts. Cela dit, la berline n'existe plus.
Non, éliminée pour la berline. Ça, c'est une voiture qui ne revient pas. On va conserver que la Legacy comme berline chez Subaru.
Est-ce qu'on a une idée à quoi ressemblaient les parts de marché, la séparation des ventes de la berline par rapport à la version à Hayon?
Je ne sais pas aux États-Unis, mais au Canada, on parle d'au moins 75 % de ventes. Là.
Pour le Hayon. Mais aux États-Unis, on sait que traditionnellement, on préfère la berline plutôt qu'une voiture...
mais la clientèle Subaru est très différente d'une clientèle traditionnelle.
C'est certain.
Alors, j'ai l'impression qu'on...
On peut comprendre cette décision-là.
J'ai l'impression que les gens devaient faire davantage le saut vers une Legacy de base que d'acheter une Impreza bien équipée berline.
Tout à fait.
Alors, tu sais, il y a eu une décision en ce sens-là aussi qui a été faite, mais c'est une décision logique. En ce qui me concerne, de toute façon, l'Impreza hatchback est juste plus intéressante en ce qui me concerne.
Ouais.
Mais je suis content de la voir revenir.
C'est très toujours, heureux.
Elle aurait pu disparaître, là.
Elle aurait pu disparaître. On a pris la décision de continuer. Le bémol que je souligne, c'est la disparition de la boîte manuelle, par contre.
Oui, c'est ça. Puis... on aurait pu aussi peut-être arriver avec une version hybride ou hybride rechargeable, emprunter la technologie qui existe, disons, dans une Crosstrek, bien qu'elle soit pas très convaincante. On a décidé de pas le faire. Alors, c'est uniquement des versions à essence traditionnelles. Voilà. Bon, là, il y a eu une annonce.
Comme ça, le Fiat peut en faire.
Bon, alors Fiat qui avait dévoilé l'année passée une version Yacht Club de son modèle 500X.
Oui.
Et je serais vraiment curieux de savoir s'il existe des 500X 2022 au Canada, si ça existe officiellement. Mm-hmm. Fiat est une compagnie qui vit sur le respirateur artificiel
en Amérique du Nord. Là. Oui, parce qu'ailleurs dans le monde, c'est correct.
C'est ça.
Mais en Amérique du Nord, on n'a aucune idée de ce qui se passe avec cette marque-là. Les studios Fiat, donc les portions dans les concessionnaires Stellantis, ont été transformées en studios Jeep.
C'est mort, là.
On a complètement écarté la marque en Amérique du Nord. On se disait que c'était terminé. Entre les branches, on avait compris que on n'officialisait pas le retrait de Fiat en Amérique du Nord parce que on avait des contrats avec les réseaux de concessionnaires.
C'est ça.
Mais là, revirement de situation au
la
salon
500
de l'auto.
Revient sur le marché. La 500 de nouvelle génération qui est vendue en Europe depuis quelques années, elle revient chez nous pour 2024.
C'est à ne rien y comprendre.
C'est une sous-compacte.
C'est comme la Fiat qu'on a déjà connue, mais légèrement évoluée.
Ouais.
Donc, la même toute petite voiture à deux portes, mais elle revient en version électrique. On n'a eu aucune donnée technique cette année. Il faudra attendre l'année prochaine pour en avoir. Ce sera fort probablement un modèle 2024 et on n'y comprend rien.
Mais ça va être, tu sais, à une époque où les petites voitures électriques sont appelées à disparaître. On sait que la Bolt, ça vit sur du temps emprunté, la Leaf aussi. Les petites voitures électriques sont appelées à disparaître. Bien, l'arrivée de cette voiture-là, moi, je trouve ça intéressant.
Mais en même elle va être vendue où, là? Comment?
Ben,
là?
En fait, t'sais, est-ce qu'on va en avoir?
Ouais.
Est-ce qu'on va être motivé à en vendre? Mais c'est clair.
Qu'est-ce qu'on aura aussi comme autonomie? On va avoir 150 km d'autonomie.
Écoute,
ça aura l'air de quoi, là? T'sais, est-ce qu'on va faire comme un...
Si on fait 250 km d'autonomie avec cette voiture-là...
Eh, mon Dieu! T'es optimiste, là.
Mais ça va être correct. T'sais, je veux dire,
oui, mais ce sera pas ça, là.
À suivre.
Ce sera pas ça.
Ce qui est sûr, c'est que...
Ce qui est sûr, c'est qu'on a tous été très surpris.
Stellantis a besoin d'un véhicule électrique et ça urge. On n'en a pas dans le catalogue. C'est long avant qu'on puisse débarquer avec la Chrysler Airflow, avec tout ce qu'on nous a présenté comme véhicule.
Il y a un Jeep électrique qu'on veut.
Oui.
Amenez-le, c'est tout.
Ça va être 90 000 $.
Non, non, le petit, t'sais? Le petit jaune, là.
Tu penses que ça va...
Avenger, c'est le nom qu'on lui a donné.
Recon.
C'est quoi le Avenger?
Avenger, c'est le modèle qui va être vendu en Italie.
En Italie, c'est voilà. Mais le plus petit, justement, là, ce petit-là, là, pourquoi on ne l'amène pas ici plutôt que de nous amener une Fiat 500?
Ben, on va l'amener. Oui. Mais ça va être vendu 70-80 000. Ouais, c'est ça, l'affaire. T'sais, alors là, on va être capable d'amener ce véhicule-là ici rapidement. Il existe en Europe.
Puis on va nous la vendre seulement 44
$995.
On verra, mais... Ah, mais je suis très, très sceptique.
Je suis plus optimiste que toi, moi.
Je suis tombé en bas de ma chaise, puis je suis surtout très, très, très sceptique. Tiens, on dit un chat échaudé craint l'eau froide. Là, on a été vraiment échaudé avec Fiat. Je n'y crois absolument plus.
Non, moi, j'y crois un peu plus que toi. C'est enfin, correct. Bref. Bon, dernier dévoilement qui a été fait... officiellement au salon de Los Angeles, mais c'est une voiture qu'on avait déjà vue, mais ouais. Bon, c'est le dévoilement officiel nord-américain, c'est l'IONIQ 6, avec des chiffres qui ont été dévoilés, et ça, c'est assez intéressant. L'IONIQ 6 utilise la même plateforme que l'IONIQ 5, c'est une berline, on la compare directement avec une Model 3 de chez Tesla, ouais. Peut-être avec la Polestar 2 également.
Avec la nouvelle Volkswagen Aero aussi qu'on avait vue, qui avait été dévoilée, si tu te rappelles, la même semaine que la IONIQ 6 en Corée. Donc, ça semble...
Mais la Volkswagen Aero...
sera peut-être plus grosse, là.
Ben, pas peut-être. Je peux t'en parler, mais non officiellement. Parce que...
Attends, je vais fermer le micro.
Oui, c'est ça. Alors, moi, j'ai pu voir la voiture physiquement dans un événement privé en périphérie du salon cette semaine. Elle va officiellement être dévoilée au CES le 3 janvier prochain. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est une grosse voiture. Mm-hmm. Attendez-vous au format d'une Arteon, là, carrément. Ouais. Là. Voiture à 5 portes, mais avec une autonomie qui pourrait atteindre 700 km selon les normes WLTP. Donc, ça veut dire quoi, 550 km? Volkswagen va l'amener chez nous. Je ne pense pas qu'on s'attend à faire des chiffres extraordinaires avec ça, mais...
peut-être plus aux États-Unis.
Mais c'est une voiture qui va être uniquement fabriquée en Allemagne.
Oui, oui, oui.
Et puis, la Chine y aura droit avant nous, l'Europe y aura droit avant nous, bref. Mais ça n'a rien à voir avec l'IONIQ 6, qui est une voiture plus petite,
okay.
Plus compacte, très stylisée, extrêmement aérodynamique, et c'est ce qui fait qu'on peut aller chercher une autonomie de 500 km, 499 officiellement, mm-hmm. avec la version à 4 roues motrices. Et
547 dans le cas de la version propulsée, parce
c'est
que
pas rien, là.
Comme la Tesla Model 3 qu'elle tentera de rivaliser,
ouais.
On aura effectivement une version propulsée, une version à 4 roues motrices, 320 chevaux dans le cas de la version à 4 roues motrices,
ouais.
Et 225 chevaux dans le cas...
Oui, c'est exactement la mécanique de l'IONIQ 5. Là.
Oui,
c'est
oui,
exactement la même chose.
Mais dans une approche différente, un format différent. Et est-ce que ça pourrait tranquillement amener la Sonata vers la porte de sortie?
Pour le marché américain, c'est difficile à dire. Parce
oui,
que
parce qu'on en vend...
On en vend encore.
Oui, t'sais, c'est tellement un grand volume... Au total, les berlines intermédiaires, même si on a une petite part d'un très gros marché, ça représente un volume ouais. intéressant.
Mais, chez nous, c'est autre chose.
Mais si on réussit à avoir une IONIQ 6 qui a justement là, une autonomie intéressante, un format intéressant, un prix intéressant, dans un format qui plaît aux Américains, ben, on se
parce qu'on est dans, des dimensions semblables à celles de l'Elantra là, avec ça.
OK.
Mais avec un design qui est quand même plus joli. À mon avis,
ouais,
personnel.
Oui, la portion arrière est assez spéciale,
ouais,
là,
ouais.
Mais
ouais.
ça demeure audacieux.
Bilan du salon de l'auto, il y a eu plus de dévoilement que ce à quoi je m'attendais, parce que je m'attendais absolument à rien.
Franchement,
et
ça ressemble...
Il y a un vrai salon à Los Angeles cette année. C'est-à-dire que oui, il y a des constructeurs qui ne sont pas présents, mais il y a quand même un vrai salon, un événement qui vaut la peine d'être visité. Ce qu'on n'aurait certainement pas pu dire de Détroit.
Voilà.
Ça donne peut-être le ton sur New York aussi. J'ai hâte de voir.
La comparaison est très facile à faire avec celle de Détroit. Et pour moi, il n'y a même pas justement de point en commun avec les deux événements. À Détroit, on l'a échappé complètement.
Ouais.
On n'était pas dans le coup. Non seulement on n'était pas dans le coup sur le plan de la presse, dans le sens où on n'avait rien à présenter aux médias,
ouais.
Mais en plus, on n'avait rien à présenter à monsieur, madame, tout le monde qui allait se déplacer au salon. parce qu'il y avait seulement 5 constructeurs qui étaient présents. Là, au salon de Los Angeles, il y avait plus de marques qui étaient présentes et on a présenté davantage de modèles, des primeurs nord-américaines, bien sûr,
ouais.
Mais des primeurs mondiales tout court aussi. Alors, pour moi, c'est une belle surprise, je pense qu'on peut le dire ainsi, parce qu'effectivement, mes attentes n'étaient pas très, très élevées après avoir vu le salon de l'auto de Détroit. Alors, il y aura peut-être un avenir pour ce type d'événement.
Puis un constructeur qui était présent et qui a pris beaucoup de place à Los Angeles cette année, c'est VinFast.
Oui,
les grosses bannières, plusieurs véhicules sur place, possibilité d'en faire l'essai.
Tu sais, percer le marché nord-américain quand tu es une marque asiatique que personne ne connaît,
ouais.
C'est un défi, c'est un énorme défi. Alors, on n'aura pas le choix, bon, effectivement, de se faire connaître.